Salut Amandine, salut René.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc. Oudia Marc.
Oudia en langue bamileke, c'est le nom de ton ethnie, ça veut tout simplement dire bonjour. Eh bien Oudia, René, et merci d'être là. Alors René, tu es le délégué au Cameroun, en Afrique, de Planète Urgence. Dans cet épisode, dans cette série, on va évidemment voir tout ce qui est fait pour protéger la forêt du bassin du Congo. On va tout de suite le dire, hein, la première étendue forestière du monde, c'est l'Amazonie en superficie, et le bassin du Congo, c'est la deuxième en termes de forêt tropicale. Donc c'est très important. J'imagine que c'est un axe important de tout ce qui est fait à Planète Urgence. Et donc avec toi, comme on a fait dans chaque série, on va parler des pépites de la biodiversité qui vivent là-bas. J'ai appris en préparant l'émission avec toi que la plus énorme antilope du monde, qui s'appelle l'élan avec un D, c'est pas comme notre élan là de Suède, de Scandinavie, l'élan avec un D, eh ben, il y en a au Cameroun, il y en a aussi au Cap. Hein. Il y a le... Moi je connaissais l'élan du Cap et toi tu m'as parlé d'un deuxième. Comment il s'appelle l'autre élan?
L'élan de Derby.
Voilà, l'élan de Derby. Qui peut faire jusqu'à une tonne. Hein. Le record, c'était une tonne, mais bon, en moyenne, il fait quand même 600 kilos. Enfin, vous voyez, c'est pas de la petite gazelle, quoi. C'est la grande famille des bovidés. Mais je m'avance, on racontera tout ça tout à l'heure. Il y a d'autres animaux. Tu vas nous parler de quoi comme animaux, par exemple, René?
Je vais vous parler, par exemple, du pangolin géant.
Ah oui.
Des perroquets à queue rouge.
Oui.
Des éléphants.
De forêt.
De forêt et de savane, oui, africaine.
Peut-être tous nos auditeurs ne savent pas qu'il y a deux espèces d'éléphants en Afrique. Hein, donc, ils ont bien tous les deux des grandes oreilles et tout. Mais il y a l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt. Et toi, tu nous as parlé, logiquement, de l'éléphant de forêt. Ouais. Tu vas nous parler des pygmées. Tu as travaillé avec eux, tu es quelqu'un qui est un homme de terrain. Tu as vécu dans la forêt, tu as partagé du temps avec les pygmées. Donc, tu as vraiment mille choses à nous apprendre. Je suis très gourmand de cet épisode, René. Peut-être on pourrait commencer avec toi par parler justement de toi. D'où tu viens? Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais? Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Tu es un fils d'agriculteur?
Oui. Je suis né dans la région du Mungo, dans la zone du littoral, c'est-à-dire Douala, en zone rurale. Et à l'âge de 14 ans, je vais commencer à fréquenter les zones urbaines pour mes études, qui vont m'amener dans la région de l'extrême nord, à Kousséri, qui partage la frontière avec N'Djamena pour poursuivre mes études du second cycle.
N'Djamena, c'est au Tchad. Hein.
Exactement.
Donc, le Cameroun a une frontière avec le Tchad. La langue officielle au Cameroun, c'est l'anglais ou le français?
On a deux langues officielles au Cameroun, c'est le français et l'anglais.
Et il y a combien de régions en tout? Tu dis qu'il y a
on a 10 régions.
Dont 2 anglophones.
On a 80% des populations qui sont des francophones et 20% qui sont des anglophones.
Merci pour ce rappel pas inutile. J'en profite pour saluer tous mes copains camerounais. En préparant l'émission, tu m'as appris deux choses merveilleuses. La première, c'est l'étymologie du Cameroun. D'où vient le nom de ce pays?
Eh bien, quand les Portugais vont arriver au Cameroun, ils vont faire leur entrée dans une rivière qui s'ouvre à la mer et qui s'appelle le Vouri. Ils vont découvrir beaucoup de crevettes dans le Vouri.
C'est la crevette tigre. Hein.
Oui. Ils vont donc décider d'appeler cette zone-là et puis par la suite le Cameroun, rivière des crevettes et en portugais, Rio dos Camarões, d'où le nom Cameroun.
Voilà. Cameroun vient de Camarões.
Camarões.
Camarões en portugais qui veut tout simplement dire la crevette. C'est drôle.
C'est cela.
La deuxième chose que tu m'as appris en préparant l'émission, c'est que le Cameroun est surnommé l'Afrique en miniature. Pourquoi?
Effectivement, parce que quand vous venez au Cameroun, pas besoin d'aller ailleurs dans l'Afrique parce que vous trouvez 80% des écosystèmes africains dans un seul pays qui s'appelle le Cameroun. Partant de l'extrême nord, vous allez trouver des écosystèmes subdésertiques. Et lorsque vous redescendez vers le sud du Cameroun, vous allez bien évidemment traverser les savanes, les steppes à épineux, puis les savanes arbustives, les savanes boisées dans la région de la Damawa. Et lorsque vous repartez vers l'ouest, vous allez trouver un écosystème de haut plateau avec des savanes d'altitude. Et lorsque vous allez redescendre vers la côte, vous allez trouver des écosystèmes marins et côtiers. Et plus bas, vers la région du sud, vous allez trouver une forêt dense monomodale. Et dans la région de l'est et du centre, vous trouverez une forêt dense bimodale. Et donc,
alors, juste, pardon, je t'interromps, c'est quoi du monomodal et du bimodal?
Bon, le monomodal, c'est un écosystème où on retrouve deux grandes saisons uniquement, la saison de pluie et la saison sèche. Et le bimodal, on a 4 saisons, une petite saison de pluie, une petite saison sèche, une grande saison de pluie et une grande saison sèche.
Ah, tu m'apprends quelque chose, d'accord, c'est 2 et 4, ok. D'accord, René, parmi les nombreuses pépites qu'il y a dans le document là, qui nous sert à faire cette émission, je vois que tu as un surnom qui est 5RN. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à CR7, le fameux surnom de Cristiano Ronaldo, ben tiens, qui est aussi portugais, comme les crevettes, enfin, comme les découvreurs portugais qui ont donné son nom à ton pays. Et toi, ton surnom, c'est 5RN. En résumé, d'où vient ce super surnom ?
Saint-René-N, parce que, comme je vous le disais, j'ai parcouru le Cameroun et j'ai compris les enjeux qu'il y a dans la défense des intérêts, des enjeux du Cameroun. Et je me suis dit, je dois être un défenseur. Et j'ai décidé de me faire appeler comme celui-là, un acteur de cinéma, Simon Templar, le saint, qui défend ceux qui ne peuvent pas parler, qui est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Et donc, j'ai décidé de m'appeler Saint-René, comme Saint-Simon Templar, qui m'amène à défendre non seulement la nature, les hommes également, ce qui m'a amené à aller faire du karaté Shotokan.
D'accord, donc 5 RN, en fait, ce 5 vient de Saint.
De Saint de Simon
le
Templar.
Le R, c'est René, et le N, c'est ton nom de famille, Nungang. Parfait. Chère Amandine, un peu comme on l'a fait dans les autres séries, est-ce que tu peux nous mettre en perspective ce bassin du Congo, on l'a dit, hein, qui est juste le deuxième du monde en termes de la superficie de sa forêt?
Exactement. Et au-delà d'être le deuxième bassin forestier tropical après l'Amazonie, comme tu l'as dit tout à l'heure Marc, c'est le seul bassin aujourd'hui qui absorberait plus de carbone qu'il n'en émettrait. Et donc il absorbe aujourd'hui plus de gaz à effet de serre que l'Inde et la France réunies. Donc c'est un bassin qui est extrêmement important d'un point de vue climatique. Et au-delà de ça, pour sa biodiversité, que René le disait, on a une alternance avec plein d'écosystèmes différents, des forêts, des savanes, des marécages, des rivières. On a aussi des forêts inondées. Donc ça déborde de vie. Tu as 30% des espèces qui sont dans ce bassin du Congo qui sont endémiques à la région. Mais on a aussi beaucoup d'espèces menacées comme les bonobos, les gorilles de plaine, les éléphants de forêt. Donc tout ça, ce sont des espèces qu'on va trouver spécifiquement sur ce bassin du Congo.
Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux symboles que se choisissent les pays. Et tu m'as dit que le symbole que s'était choisi votre voisin, le Tchad, est la grue couronnée. Et je pense que tous les Français connaissent l'animal symbole du Cameroun. Vous faites partie de ces nombreux pays qui se sont choisis peu originalement, mais magnifiquement, le lion. D'ailleurs, l'équipe de foot du Cameroun, elle est connue. Elle est surnommée les lions indomptables. Est-ce que toi-même, tu as un lion indomptable, cher 5RN, alias René?
Pur sang, lion indomptable. D'ailleurs, j'ai assisté à un match de la France contre l'Irlande en 2019, après le retour de la Coupe du Monde. Et j'étais habillé en maillot de lion parce que je voudrais symboliser le lien qu'il y a entre la France et le Cameroun en disant j'ai plein de joueurs d'origine du Cameroun, alors je vais mettre les maillots des lions indomptables pour être aux côtés de ceux-là originaires du Cameroun et qui jouent dans l'équipe de France.
Tu peux citer des joueurs célèbres de l'équipe de France?
Je vais citer Kylian Mbappé, je vais citer Aurélien Tchouaméni.
Mbappé, tu m'apprends quelque chose, ses ancêtres viennent du Cameroun.
Même mieux, Mbappé, son père vient d'une région où on fait un projet sur les mangroves.
On espère même qu'il viendra nous dire un petit bonjour un de ces jours.
C'est ça.
D'autres footballeurs célèbres du Cameroun?
Umtiti, par exemple.
Samuel?
Oui, si c'est des footballeurs hors nationalité française, on a bien évidemment Roger Milla.
Oui, j'allais le dire.
Oui, le footballeur de tous les siècles.
Oui,
meilleur joueur de tous les siècles.
Qui est l'auteur d'une espèce de danse à chaque fois.
Exactement.
Qu'il met un but.
La danse du lion de Roger Milla en Italie 90. Vous vous souvenez, le Cameroun a été le tout premier pays à atteindre les quarts de finale en coupe.
C'est l'histoire d'un sorcier qui a sorti ses gris-gris pour marquer les deux buts d'une victoire historique pour le Cameroun et surtout pour tout le football africain. On ne sait pas très bien son âge, 38, 39 ans. En tout cas, il s'appelle Roger Milla.
Et on peut citer également le célèbre, le plus riche footballeur africain de tous les temps, Samuel Eto'o fils.
Oui. En tout cas, tu as des paroles très mesurées. C'est le plus de tous les temps. Effectivement, il y a de quoi être fier du foot au Cameroun. Alors, ce n'est pas notre sujet du jour, mais ça méritait d'être dit. René, tu es donc ingénieur forestier et tu as eu la chance de partager des moments avec les pygmées Baka. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire.
Il faut dire que dans mes recherches pour l'obtention du diplôme d'ESS en sciences forestières, j'ai beaucoup travaillé avec le financement de WWF, n'est-ce pas, sur les questions de résilience des communautés locales autour des aires protégées. Et il fallait aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que les hommes dépendent entièrement des forêts et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les communautés locales ne partent pas perturber la dynamique de la faune. Il fallait donc caractériser les milieux de production agricole des communautés locales et également comprendre si des choses qu'ils partent chercher en forêt ne peuvent pas être domestiquées dans les systèmes de production. Et donc, du coup, nous avons travaillé avec deux peuples, le peuple bantou et les peuples baka. Je passe en saluant Mujukweo, qui veut dire bonjour en baka. C'est un peuple de la forêt très connu, de petite taille. Ils font maxi 1m50.
1m50.
Oui.
Je te dis juste un truc, parce que j'ai travaillé longtemps avec eux, j'ai beaucoup d'amitié chez les personnes de petite taille. On ne dit pas nain, c'est un terme offensant, je passe vite là-dessus. Mais en France, la taille requise pour faire partie de l'association des personnes de petite taille, je rappelle que les personnes de petite taille souffrent de maladies osseuses, bref, c'est 1m35. Donc c'était juste pour comparer. Toi, tu me dis 1m50, ils sont un peu plus grands. Enfin voilà, mais quand même, 1m50, c'est petit. Toi, tu mesures combien, par exemple?
Moi, je mesure 1m74.
Et toi, Amandine?
1m62.
Bon, moi je fais 1m91. Voilà, j'ai gagné le concours
de
taille.
Es-tu une personne de grande taille alors?
Exact. René, pardon, c'était juste pour situer. Tu as dit les baka font en moyenne 1m50, d'accord. Comment tu les présenterais?
Oui, donc ce sont ces peuples-là qui vivent dans la forêt équatoriale et qui ont pour principale activité la chasse, la pêche et la cueillette des produits forestiers non ligneux. Ils vivent en forêt et ne se retrouvent pas dans les zones d'habitation avec les bantous. Et donc, ils dépendent entièrement de la chasse, de la cueillette, et beaucoup plus de la pêche dans les rivières forestières.
Cher René, tu as eu une expérience avec ces pygmées baka. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu en as tiré de cette expérience?
Oui, comme je le disais, c'est un peuple qui vit essentiellement dans les forêts et qui sont aujourd'hui considérés, avec les menaces que subit leur habitat, se retrouvent dans un seul terroir avec les bantous et qui sont marginalisés, très marginalisés par ceux-ci, par les bantous, qui les considèrent un peu comme leurs esclaves. Il faut dire que ce sont ces pygmées-là qui vont aller faire de la cueillette pour les bantous, qui vont aller faire des champs pour les bantous, qui vont aller faire des courses pour les bantous, et ils ont un salaire de moins d'un euro par jour. C'est ce peuple-là qui est marginalisé du fait de la destruction de leur habitat. Aujourd'hui, on connaît que la déforestation liée à l'exploitation forestière détruit considérablement les territoires, les terroirs forestiers des Baka. Ce territoire constitue leur zone sacrée, leur aire sacrée, parce qu'ils vont faire des rites avec la chasse des éléphants pour leur rite, et également ils croient à un dieu qui s'appelle le Djengi, le dieu de la forêt. Et donc, détruire ces forêts-là, ça veut dire on s'attaque au paradis des Baka, on s'attaque à leur dieu, on s'attaque à leur territoire de culture. Et c'est quelque chose sur laquelle il faudra mettre un accent pour inverser la tendance.
Oui, c'est fou. Alors, je rappelle au passage que les Bantous, ce sont ces grands peuples d'agriculteurs qui bordent les forêts. Et donc, c'est là qu'il y a les fameuses interactions que tu viens de signaler, à l'avantage des Bantous. Et les Bantous s'opposent, c'est pas le mot, mais sont aussi voisins des Peuls, les fameux Peuls, qui sont plutôt, eux, des pasteurs. Hein. C'est la grande répartition, finalement.
Oui, les Peuls viennent pour la plupart de la région soudano-sahélienne, c'est-à-dire la zone sèche du Cameroun, la partie nord du Cameroun, qui a trois régions, la région de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. On trouve plus les Peuls là-bas, mais qui, de temps en temps, vont migrer vers les zones d'insertion de la savane dans la forêt. Une partie à l'est, une partie dans le centre et une partie dans la région de l'ouest du Cameroun. C'est là où on peut trouver les Peuls.
Tu es en train de dire que parfois il y a des conflits aussi entre les Peuls et les Bantous?
Bien sûr. Les
pour conflits, des questions de déforestation.
Exactement. Les conflits agro-pastoraux avec les Peuls qui viennent en transhumance, qui viennent même des pays de l'Afrique centrale. Notamment dans cette zone forestière où il y a les pygmées, on peut retrouver des Peuls qui viennent de la Centrafrique.
Et ces conflits, on va les retrouver dans plein d'endroits différents sur la zone africaine où on intervient. Ce qui est important, du coup, c'est avant de faire la moindre intervention, c'est de comprendre quelles sont les dynamiques sur le territoire. Et on utilise pour ça les cartographies participatives, où chacun peut expliquer sur une carte où est-ce qu'il a besoin d'aller, en quoi c'est nécessaire pour lui, pour ses pratiques, sa survie, pour aussi sa culture. Et ça fonctionne très bien.
René, je vois qu'il y a des énormes problèmes de braconnage. Là, je vois un autre sigle connu, AK-47. Bah, c'est le nom d'une marque de Kalachnikov, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu du braconnage dans ces régions?
Il faut dire que le Cameroun a connu l'un des pires moments du braconnage en Afrique en général, avec notamment cette série de braconnages d'éléphants qui a eu lieu dans le parc national de Boubandida, où on a perdu près de 250 éléphants dans un seul parc. Et ces braconniers, c'était des braconniers transfrontaliers qui venaient depuis le Soudan et qui utilisaient les armes de guerre comme les AK-47 et les fusils automatiques légers qu'on appelle le FAL et des fusils, des pistolets mitrailleurs également. Et ils venaient à bord des chameaux. Ils sont entrés dans nos parcs et ils ont détruit près de 250 éléphants. Il faut déjà dire qu'on a de la chasse par les Camerounais eux-mêmes. C'est beaucoup plus de la chasse de subsistance et la chasse commerciale, où plusieurs espèces sont abattues.
C'est ce qu'on appelle la fameuse viande de brousse.
La viande de brousse, ils en font la viande de brousse, bien évidemment. Mais il faut dire, à titre d'exemple, hein, sur deux parcs en une seule année, le parc national de Lobeke et le parc national de Kampoman, on a, les services de la conservation ont enregistré près d'une tonne en moyenne, si on peut estimer ça comme ça, de viande de brousse ou de viande de gibier qui ont été saisies. Et il faut rappeler que cette saisie-là ne représente que 10% de ce qui peut se passer en termes de circulation de la viande de gibier.
Donc sont dégommés des grands singes, des pangolins géants dont on va parler dans un prochain épisode avec toi, les fameux perroquets, il y a des grands félins, il y a des chimpanzés, il y a des gorilles, il y a des mandrills. Le mandrill, c'est ce singe qui a un nez très bariolé, bleu, blanc, rouge.
Oui, avec des fesses rouges.
Et fesses rouges et le nez aussi. Hein. Oui. On en parlera du mandrill, on en dira un mot. C'est un des plus beaux singes du monde, il est incroyable. Voilà, c'est ce que tu es en train de dire. Tout ça, c'est la viande de brousse. Donc, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est Boko Haram. Là, tous ces AK-47, c'est des armes de guerre qui sont, entre guillemets, recyclées, qui viennent de ces conflits-là, en résumé.
Oui, en effet. Et il faut dire que la guerre en Libye est une source d'approvisionnement en armes de ces chasseurs-là qui viennent du Tchad, qui passent par le Tchad et qui arrivent au Cameroun. Ça peut être également issu des guerres comme la secte islamique Boko Haram qui fait mal à la biodiversité. Également, il faut le rappeler, autour du lac Tchad. Le lac Tchad, on pourrait aussi en parler. C'est cette secte-là, n'est-ce pas, qui recrute pas mal de populations camerounaises, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont des offres très très importantes au niveau des chefs de Boko Haram et qui sont obligés d'intégrer cette secte islamique pour combattre à leur côté. Et donc c'est un fléau qui peut également être une source d'approvisionnement en armes pour le braconnage.
Amandine, pour clore cet épisode, on va un peu dire ce que fait Planète Urgence au Cameroun sur ce fameux deuxième plus grand bassin de forêt du monde après l'Amazonie. J'arrête pas de le dire, mais c'est important à rappeler. Tout simplement, en gros, votre programme, c'est quoi là-bas ? Quelle est votre action ?
Alors, Planète Urgence est présent depuis 2004 sur la zone. L'équipe travaille sur trois projets. Le premier se trouve dans la zone sudano-sahélienne, donc au nord du Cameroun. On a un désert qui avance et besoin de réintégrer l'arbre dans le paysage et que ce soit un arbre qui soit utile. Donc, on utilise la noix de cajou et les anacardiers. On a un deuxième projet qui est sur la zone de mangrove autour de Douala et Déa. Là, on a une destruction très très forte de cet écosystème avec un impact sur les populations qui est majeur, notamment en cas d'augmentation du niveau de la mer. Et donc, on restaure 1000 hectares de mangrove avec beaucoup de partenaires locaux. Et puis, on va juste démarrer là, c'est nouveau, vous êtes les premiers à le savoir, un projet en 2024 autour du mont Bambutos sur des forêts sacrées et des versants qui sont extrêmement importants pour la biodiversité. Et pareil, là, on va travailler sur l'avocat et sur les forêts sacrées, pour créer ce lien économique pour les populations et protection, conservation.
Dans la série sur l'Équateur avec Saïra, on a vu, voilà, c'est toujours lié effectivement la subsistance des gens qui vivent, les aider, voilà, bien sûr, à vivre économiquement. Et dans ce cas, c'était pas de l'avocat, c'était le fameux café d'ombre. Enfin voilà, il y a évidemment tous ces liens dans tous vos projets, comme on l'a déjà résumé plusieurs fois, c'est pas le tout de planter des arbres, il faut bien sûr aider autant que possible les communautés qui vivent dans ces lieux qu'on protège. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce premier épisode liminaire sur ce que fait Planète Urgence en Afrique, en l'occurrence au Cameroun. On voit qu'il y a différents enjeux, différentes zones. Il y a le désert, il y a de la forêt, il y a des hauts plateaux. Ok. On se retrouve très vite pour parler des trésors, des pépites du vivant qu'il y a dans ces endroits. René est un énorme connaisseur et je m'en pourlèche les babines d'avance. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. Salut Amandine, salut René.
Merci Marc.
Merci Marc, bye bye.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?